franceinter.fr.
Alarme autour du virus Zika et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Un lien de cause à effet entre une infection au virus Zika et des malformations à la naissance ainsi que des syndromes neurologiques n'a pas encore été établi. C'est un point très important. Mais ce lien est fortement suspecté. L'existence possible de ce lien, découvert récemment, a changé le profil de Zika d'une menace modérée à celle d'une proportion alarmante.
Voilà la voix de Margaret Chan à l'OMS. Il y a 3 mois, ce virus était encore inconnu du grand public. Et voilà justement que l'OMS annonce la tenue d'une réunion d'urgence lundi à Genève face à l'épidémie qui explose sur le continent américain. Quels sont les risques liés à ce virus originaire d'Afrique, transmissible seulement par certains moustiques? On en parle avec vous, Benjamin Roche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste à l'IRD. Vous êtes en direct avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Montpellier. Depuis quand les scientifiques surveillent ce virus Zika qui semble nouveau pour tout le monde?
Alors, c'est un virus qui est connu quand même maintenant depuis pas mal de décennies. Il a été isolé dans les années 40 en Afrique. Et puis, c'est vrai qu'il est resté un peu sous le niveau de détection pendant plusieurs décennies. Et vraiment, la première grosse épidémie de ce virus a eu lieu en 2013-2014 en Polynésie, avec près de 30 000 cas en Polynésie française sur l'année. Ça a été vraiment la première épidémie majeure de ce virus, avant donc l'année dernière, et que le virus arrive au Brésil avec la propagation qu'on connaît.
Oui. Quels étaient les symptômes en Polynésie?
Alors en Polynésie, il faut savoir que ce virus Zika, dans la très très grande majorité des cas, il ne provoque pas de symptômes. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont infectés. Il y a environ 80% des cas donc qui sont asymptomatiques, donc aucune fièvre, rien du tout. Et puis il y a dans 20% des cas, c'est plus des syndromes grippaux, c'est-à-dire voilà de la fièvre, quelques douleurs. Et le traitement consiste principalement à traiter les symptômes, c'est-à-dire voilà, à essayer de faire baisser la fièvre.
Et là, c'est cette corrélation entre ces malformations et les cas de virus qui inquiète le plus aujourd'hui.
Oui, en fait, c'était quelque chose qui était passé plus ou moins inaperçu en Polynésie par rapport aussi au nombre de cas. Il faut savoir que c'est quand même une malformation rare, même chez les gens, chez les femmes enceintes qui sont contaminées par ce virus. Donc en Polynésie, il y avait eu 30 000 cas, donc en gros, il n'y avait pas assez de cas pour pouvoir vraiment détecter quelque chose au niveau du nombre de microcéphalies, parce que c'est la malformation dont on parle. Par contre, au Brésil, maintenant, il y a entre 500 000 et 1 300 000 cas, et c'est là où on s'est rendu compte en fait que le nombre de microcéphalies sur l'année dernière a été multiplié par 20 par rapport à une année normale. C'est-à-dire qu'une année normale au Brésil, il y avait environ 150 cas de microcéphalie.
Qu'est-ce que c'est exactement chez les enfants, cette pathologie?
En gros, c'est l'enfant qui naît avec une boîte crânienne plus petite que la normale, trop petite dans certains cas, et donc avec toutes les complications que ça peut avoir, y compris le décès du fœtus ou de l'enfant.
Et on n'a aucune idée pour le moment de comment le virus pourrait causer ce trouble?
Non, c'est très très mal connu. D'ailleurs, j'entendais Margaret Chan le dire au début de cette émission. Il n'y a pas encore de preuves scientifiques irréfutables disant que c'est ce virus qui est responsable de ces microcéphalies. Il y a une très très forte suspicion. Comme je vous disais, le nombre de cas de microcéphalie a été multiplié par 20. Et en plus, dans des zones où le virus Zika sévissait. Donc il n'y a pas de preuve dans le sens, on n'a pas encore compris le mécanisme, il n'y a pas encore ce lien de causalité qui a été démontré, mais une augmentation, une multiplication par 20 du nombre de cas, c'est une suspicion suffisamment forte pour justement appliquer un principe de précaution et dire aux femmes enceintes, comme disait la ministre hier, d'essayer de différer leur voyage dans les zones où le virus circule.
Est-ce qu'il y a un risque d'augmentation du nombre d'avortements dans ces zones également?
Alors ça c'est compliqué à dire, c'est pas exclure, mais là il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir parler de ce genre de choses.
En tout cas, apparemment le souci c'est que cette malformation, donc la microcéphalie, est détectable que très tard, c'est ça, pendant la grossesse.
A priori, oui, elle est détectable très tard. Alors je sais qu'il y a des équipes qui essayent justement de voir si on pourrait éventuellement essayer de la détecter un peu plus tôt chez les femmes qui sont dont on sait qu'elles ont été contaminées par le virus Zika. Mais comme vous disiez en introduction, c'est un virus qui est très très mal connu. On commence vraiment à s'intéresser à la biologie de ce virus depuis vraiment très peu de temps. L'IRD était un des premiers instituts à vraiment essayer de décrire les mécanismes de réplication de ce virus. Mais ça date d'il y a 1 an ou 2 ans au maximum, quoi.
Si on parle de la transmission, quels sont les moustiques qui sont connus comme vecteurs du virus Zika?
Alors, c'est les moustiques du genre Aedes. Donc, en Amérique du Sud, c'est principalement Aedes aegypti, qu'on n'a pas ici en Europe, très peu. Et donc, Aedes albopictus, qu'on connaît un peu mieux en France métropolitaine, qu'on appelle aussi le moustique tigre.
Ça veut dire qu'il faut craindre peut-être des cas de Zika l'été prochain en Europe?
Alors, c'est pas une hypothèse à exclure. Après, il n'y a pas de raison de paniquer outre mesure. On avait eu un problème assez similaire il y a 2 ans. Il y avait une épidémie de chikungunya dans les Caraïbes, avec vraiment énormément de cas. Et en fait, on a eu un ou deux foyers, ce qu'on appelle un foyer, c'est-à-dire quelques cas, une dizaine de cas. C'est-à-dire que des gens qui ont été infectés dans ces zones-là sont revenus en métropole infectés, ont permis de contaminer certains moustiques qui ont pu démarrer une transmission locale, mais c'est resté très très circonscrit pour différentes raisons, pour des raisons de la biologie du virus, de l'adaptation, de biologie du vecteur, pardon, du moustique, l'adaptation du virus aux moustiques qu'on a ici en France métropolitaine, et puis aussi, bien sûr, des autorités de santé publique qui ont lancé des opérations de lutte contre le moustique assez rapidement.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les risques d'épidémie en France métropolitaine sont faibles au regard de ce qui se passe outre-mer, Antilles et Guyane en particulier?
Oui, elles sont clairement beaucoup plus faibles. Ça ne veut pas dire que... Après, comme je vous disais, c'est un virus qu'on connaît assez mal. L'hypothèse la plus probable en France métropolitaine, effectivement, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Quelque chose qui a potentiellement une petite probabilité d'arriver, c'est des foyers, comme on a eu l'année dernière à Nîmes. On a eu 5 cas de dengue locaux, autochtones, c'est-à-dire contaminés localement à Nîmes. Il y a 2 ans, on avait une dizaine de cas de chikungunya à Montpellier. Voilà, on peut s'attendre potentiellement à ce genre de petits foyers épidémiques, mais une épidémie du style de ce qui se passe actuellement au Brésil avec plus d'un million de personnes infectées reste vraiment très très peu probable.
Alors une question de Thierry, ce virus est-il considéré comme une menace sur le taux de natalité humaine? Alors l'exemple du Brésil peut-être en tout cas?
Alors, ça dépend comment on peut regarder la chose. Si c'est, est-ce que les gens vont, est-ce que les femmes vont différer leur projet de grossesse?
Apparemment, au Brésil, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Hein.
C'est possible. C'est plus un mécanisme du coup social. Il y a certains gouvernements de pays, je crois que c'est la Colombie, qui a justement recommandé aux femmes de différer leur projet de grossesse. Après, ça peut être des choses assez assez ponctuelles. C'est pas à exclure. Après, la probabilité d'avoir effectivement ce genre de complications d'enfants avec une microcéphalie reste quand même rare. Donc, c'est pas tant le virus lui-même qui peut faire baisser la natalité humaine, c'est plus la réaction des humains par rapport à la peur du virus.
Mais vous l'avez dit, on connaît mal le virus. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de lutte connus aujourd'hui?
Alors, le principal moyen de lutte contre le virus, c'est principalement de se protéger des piqûres de moustiques. Donc, si on peut, ça peut être l'utilisation de répulsifs, l'utilisation de vêtements amples et longs. Aussi, détruire tout ce qui peut servir de gîte aux moustiques, c'est-à-dire les eaux stagnantes, les soucoupes sous les pots de fleurs, ce genre de choses. Détruire toutes ces eaux stagnantes pour limiter la densité de moustiques. Ça reste aujourd'hui la principale moyen d'éviter de se faire contaminer.
Merci Benjamin Roche pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'IRD, en duplex depuis France Bleu à Montpellier, et donc lundi, tenu d'une réunion d'urgence à Genève, à l'annonce de l'OMS face à cette épidémie qui explose un peu partout sur le continent américain. Merci beaucoup à vous Benjamin Roche. Et bon week-end Axel.
Bon week-end.
À lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, traiter les troubles de l'érection avec des cellules souches, ce sont les premiers résultats encourageants d'une étude française dévoilée hier. 11 patients souffrant de troubles sévères de l'érection après un cancer de la prostate ont reçu une greffe dans le pénis, cellules souches prélevées dans la moelle osseuse. Après 6 mois, des améliorations significatives de la qualité des rapports sexuels, de l'érection, de la rigidité du pénis, mais aussi la qualité de l'orgasme ont été rapportées par tous les patients. De beaux espoirs, donc, et une technique qui pourrait rapidement se généraliser. Le Sénat a dit non à la brevetabilité du vivant. Dans le cadre de l'examen de la loi sur la biodiversité, il a étendu l'interdiction du brevetage des fruits et légumes et de leurs composants génétiques issus de procédés biologiques. Le débat doit maintenant être étendu à l'Europe. l'Europe où l'Office européen accepte toujours des brevets sur des légumes et des fruits issus de croisements ou de nouvelles techniques d'hybridation. La loi française n'annule en rien la validité de ces brevets européens, mais elle empêche toute poursuite judiciaire des titulaires de ces brevets sur le territoire français. Et puis pour finir, la Terre et la Lune partagent une partie de leur matière. Une équipe d'astronomes du CNRS a pu réétudier des roches lunaires des différentes missions, Apollo 12, 15 et 17, et des météorites. Leurs résultats indiquent une composition presque identique des isotopes de l'oxygène 17, une forme de signature moléculaire normalement propre à chaque corps. Cette similarité entre la Terre et la Lune confirme donc une nouvelle fois l'hypothèse principale de formation de la Lune par collision de la Terre avec un énorme corps de la taille de Mars. Il y a 4 milliards d'années. Une simulation en vidéo de cette magnifique collision est à voir sur la page Facebook de l'émission.